une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Pendant plusieurs mois, des collectifs ou associations de femmes implantées dans différents quartiers populaires de Marseille se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques. Ces rencontres ont été initiées par Camiraca et Johanna Fidalgo pour la direction de la politique de la ville Métropole Marseille-Provence. Au cœur des échanges, les discriminations multiples et systémiques auxquelles les habitants et les habitantes de ces quartiers sont confrontés. Ces femmes luttent pour le droit au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, ou pour faire entendre la voix des habitantes et des habitants dans les politiques de rénovation urbaine. Elles disposent souvent de peu de moyens, alors même qu'elles pallient aux carences de l'État. Leur détermination constitue la ressource principale sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Au fil des rencontres, nous avons fait connaissance et nous leur avons proposé de faire le portrait de leur association, de leur collectif. Une manière de rendre hommage au travail colossal qu'elles accomplissent. Épisode 5, les Minots de Noailles, entretien avec Assia et Alia.
Pour moi, le Noailles, c'est un quartier populaire qui n'a pas fini d'être gentrifié. Voilà, la gentrification n'est pas encore achevée, c'est comme ça que je présenterai d'abord ce quartier. C'est un quartier populaire qui est en plein centre-ville, c'est aussi le ventre de Marseille. Si on fait sa carte sensible, on est à 5 minutes du Vieux-Port. De l'autre côté de la Canebière, on a le quartier de Belzance. De l'autre côté, on n'est pas très loin de Castellane, on n'est pas très loin du cours Julien, des Réformés, de la Plaine. Donc c'est vraiment un quartier central. C'est aussi un lieu de commerce et aussi un lieu de multiculturel, on va dire, mais aussi de rencontres, d'échanges, etc. En tout cas, c'est comme ça que je vois le quartier.
Moi, je suis arrivée en France en 2014. J'arrive de l'Ouest algérien. J'ai découvert ce quartier. J'ai habité à la place du lycée. Mes cours, je les faisais là-bas. Et après, là, j'ai rencontré une communauté de tous horizons. C'était un mélange et j'étais un peu surprise. D'un côté, je me suis retrouvée en France. Aussi, j'ai trouvé mes racines un peu. J'ai rencontré des gens qui venaient de chez moi, d'autres pays. J'étais très contente. Et après, je me suis dit, c'est là où je veux vivre.
C'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Marseille, il y a presque 5 ans, quand je me suis retrouvée dans ce quartier, plein de fois, j'avais l'impression que j'étais à Alger. Et je me suis rendu compte, il y a des fois, je ne savais plus quelle langue je devais parler. Je voulais dire « Salam alaikum » quand
ça.
J'arrivais dans ce
Exactement, c'est après, après, tu le décris très bien.
Mais, tu sais, j'avais comme une espèce de désorientation. Et après, je me rendais compte, je me dis « Mais non, en fait, c'est en France, ici. »
En fait, moi, je fais les deux langues. Je dis « Salam alaikum », je dis « Bonjour ». Les deux, et je m'exprime dans les deux langues. Et après, j'attends comment ils vont me répondre. Il y a une partie de notre identité là-dedans, et c'est ce qu'on adore aussi. Oui. Et tu partages ça avec moi, c'est bien.
Moi, j'ai habité à Noailles parce qu'en revenant à Marseille, je me suis dit, je venais des quartiers nord, et je me suis dit, c'est où que je pourrais habiter en habitant dans le centre-ville. Tout de suite, j'ai habité à Noailles parce que c'était le seul quartier dans le centre-ville qui ressemblait au quartier dans lequel j'étais quand j'étais gamine. Voilà, et là, ça a changé parce que quand j'ai visité les appartements, c'était en 2014, c'était pas possible pour moi de vivre à Noailles avec mes enfants en étant précaire. Je m'étais dit, un jour, ça va leur tomber sur la tête. Et ça, je me rappelle très bien de cette phrase parce que j'avais visité un appartement avec une copine qui m'avait rappelé après les effondrements. On me disait, tu te rends compte ce que tu m'avais dit?
En fait, comme je l'ai dit avant, moi je suis arrivée en 2014 et en fait j'ai inscrit la petite à l'école Chabanon. Et là, le directeur, il m'a parlé de l'association des parents d'élèves. Et sachant que moi ici je connaissais personne, je venais d'arriver, là quand tu arrives, ils te parlent tout le temps d'intégration, de rencontrer des gens. Alors je me suis dit, et en plus moi c'est quelqu'un qui n'aime pas l'isolement. J'aime être avec les gens. Et quand il m'a parlé de l'association, je suis rentrée en contact avec eux. Et là, il y avait Asia, il y avait d'autres mamans aussi, d'autres parents. Et de là, l'aventure avec l'association des parents d'élèves a commencé. Et la rencontre avec Asia, que j'adore. Et depuis 2014, avec Asia, on est toujours ensemble à ce jour.
La première chose qui m'a scotché en arrivant à l'école Chabanon, c'est de voir autant de populations des quartiers populaires dans le 6e arrondissement de Marseille. Je me rappelle que quand j'ai demandé le premier jour mon chemin pour aller à Chabanon pour inscrire mes enfants, on m'avait dit surtout il ne faut pas aller dans cette école. Parce que vraiment, c'est vraiment, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Il faut peut-être choisir de mettre vos enfants dans l'école privée qui est à la rue Lodi. Parce qu'il y en a beaucoup qui détournent la carte scolaire pour ne pas venir à Chabanon. La majorité des parents qui ont les moyens de choisir quand ils sont plutôt de gauche, ils jouent le jeu surtout pour une année, pour le CP, parce qu'en fait, la classe CHAM et l'école de musique du cours Julien ne recrutent qu'à partir du CE1. C'est pas évident de rester dans une école qui n'a pas les moyens, donc il n'y a ni les moyens à l'époque d'un point de vue local, c'était une petite école, pas les moyens de la part de la mairie pour faire des activités périscolaires entre midi et deux. Pas les moyens aussi au niveau de l'éducation nationale. Le directeur a milité avec nous pendant des années pour que ce soit une REP plus. Et ce n'est qu'une REP, alors qu'ils ont tous les critères pour être une REP plus. À Chabanon, on a 80% de boursiers. Même dans les quartiers nord, on n'a pas 80% de boursiers, c'est-à-dire 80% de personnes qui ne payent pas la cantine. C'est un critère énorme. Et cet établissement n'a jamais eu les moyens qu'il devrait avoir pour une école populaire.
Moi, quand j'ai rencontré les parents, Julie, Corinne, et en fait, elle disait qu'elle a entendu que les filles, elles vont souffrir là-dedans, trop de sans-papiers, par exemple. Mais après, Julie, quand elle a intégré ses filles, elle était très, très contente. Ça veut dire qu'elles ont resté jusqu'au 6e. Après, là, elles sont au collège.
Et elles s'en sortent très bien.
Très, très bien. Très, très bien. Au contraire, elle était ravie de l'expérience parce qu'elle a dit que ça les a forgées. Ça a accentué leur personnalité.
Moi aussi, j'étais amenée aussi à me poser ce genre de questions parce que, du coup, moi aussi, dans mon itinéraire, je suis une bobo. C'est pas parce qu'on est racisé, entre guillemets, quoi. On est tous attrapés par ces préjugés quand on commence à avoir des enfants. Et moi, j'avais un fils qui avait des difficultés parce qu'il était, pour certains, précoce, etc. Et je me rappelle que c'est avec cette équipe éducative qu'on a pu accompagner mon fils jusqu'en CM2. Et je ne pense pas qu'on aurait pu accompagner mon fils en dehors de cette école. Oui, il y a beaucoup de bienveillance, une équipe éducative formidable qu'on n'a pas forcément dans toutes les écoles. Et moi, je pense que c'est l'école de la vie, ces écoles-là. J'ai un copain qui a laissé ses enfants de l'autre côté de Belzunce à l'école Corsec. C'est un prof. Et justement, je lui disais, mais quand on est prof, qu'est-ce qu'on risque de laisser ses enfants dans ces écoles? On risque rien du tout. Une anecdote, je me rappelle qu'à chaque fois, quand les parents viennent, ils disent « il faut qu'on parte de cette école, il faut qu'on parte de cette école ». Et quand ils trouvaient un autre endroit où habiter Canouailles, ils partaient dans le 10e, dans le 8e, dans le 6e. J'étais très étonnée, on était encore à Chabanon. Et je me rappelle, je ne sais plus si tu te rappelles, cette maman qui revenait, je me disais « mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Mais non, mais mes enfants, ils ne sont pas du tout acclimatés dans le 10e. » À l'école, elle faisait des allers-retours pour revenir à Chabanon, quoi. Et c'est ça, moi aussi, j'ai déménagé à la Plaine et mes enfants ne voulaient pas partir de Chabanon parce qu'une fois qu'on y est, eh ben vraiment, c'est magique, cette école, quoi. En tout cas, moi, je sais que tous les gens qui sont restés jusqu'en CM2, ils n'ont pas regretté.
Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc, l'école du cours Julien, c'est une école qui propose aux élèves un enseignement musical renforcé. C'est ça qu'on appelle donc les classes CHAM, c'est-à-dire des classes à horaires aménagés musicales. Mais alors, je n'ai pas compris pourquoi on peut y entrer qu'à partir du CE1.
Il n'y a pas de CP dans cette école.
Il y a direct CE1.
Ah, d'accord.
L'instruction musicale, elle commence qu'en CE1.
Donc si tu dis que tu veux que ton gamin y fasse de la musique, du coup, tu peux le mettre dans cette école-là, quoi.
Ah ben non, c'est pas si facile que ça, quoi. Pour pouvoir rentrer dans l'école Julien, il y a un concours d'entrée. Et pour avoir le concours d'entrée, il faut quand même que ton fils soit préparé ou ta fille soit préparée pour rentrer dans cette école. Ça s'appelle le capital culturel, quand même. Mais les classes CHAM sont en général dans les quartiers populaires et recrutent dans les quartiers populaires. Ici, nous, au cours Julien, on ne recrute pas forcément des gens des quartiers populaires parce qu'il faut tout un apprentissage.
C'est une école publique.
Ah, c'est une école publique, hein, complètement. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Hein. Il faut juste passer ce concours quand même qui est pas accessible pour tout le monde. On a essayé de le faire avec une enfant qui est vraiment virtuose, quoi, la fille de Samira. Et on a accompagné, sauf qu'on ne nous dit jamais quand est-ce que sont les concours. Voilà. Pour moi, c'est de la rétention d'informations. Ceux qui ont toute l'information, ils sont préparés depuis longtemps. En général, ces personnes ici de cette classe CHAM vont être recrutées au collège Thiers et au collège Longchamp, de toute façon. Hein. Il y a vraiment, pour moi, une ségrégation. Nous, on trouve que c'est une injustice sociale. Et moi, je suis vraiment une militante de l'accès à la culture pour tous, un truc comme ça, mais pas faussement, dans le sens où moi, j'ai toujours vécu dans les quartiers populaires. Et à chaque fois, je me suis rendu compte, c'est pas parce qu'on est super bon à l'école qu'on réussit, en fait. La plupart des gens que j'ai connus dans n'importe quel quartier où je suis allée, que ce soit à Marseille, en Bretagne, au Maroc, etc., c'est parce qu'à côté, on avait un accès à la culture, que ce soit sportif, que ce soit de la musique. Et ces gamins-là, quand ils grandissaient, ils avaient beaucoup plus accès à ce capital culturel qui fait qu'ils devenaient des caméléons. Ils pouvaient s'adapter dans toutes les sphères de la société. Quand je suis rentrée à l'école Chabanon et que j'ai vu qu'il y avait déjà quand même une association de parents d'élèves qui était déjà existante, elle s'est créée en fait pour les parents de l'école, parce que les enfants n'avaient aucune activité entre midi et deux. Moi, je n'avais jamais vu ça. Même dans les écoles pauvres des quartiers nord, on n'a jamais vu ça. Et ils ont réussi à mettre en place des ateliers de lire et faire lire, etc., pour combler ces vides. Moi, je trouvais que c'était génial d'avoir une association qui puisse mobiliser les parents autour du pouvoir d'agir parental, qui puisse faire plein de choses pour l'école. Mais il se trouvait que cette association, elle ne représentait pas du tout les parents de l'école. C'est toujours pareil, c'est encore nous, des sachants qui savons écrire, qui savons parler, etc. Et on se retrouvait entre soi, finalement, entre gens qui ont fait des études, qui parlent bien français, etc. Et moi, ça m'a vraiment dérangée. Et c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille, ben, on a fait en sorte que, à l'intérieur de l'association, les parents qui sont délégués de parents d'élèves, qui soient représentatifs des parents. Et tout ça, ça nous a demandé un an. C'est-à-dire mobiliser les parents, leur expliquer que ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne peut pas intégrer cette association. Ce n'est pas parce qu'on est voilé qu'on ne peut pas intégrer le conseil de classe. Et il y avait beaucoup de préjugés, même dans les institutions, par rapport à ça. Donc, il a fallu renvoyer les textes de loi pour dire que non, tout le monde peut siéger dans les conseils de classe. Donner envie aux parents et surtout qu'ils s'autorisent à venir. Parce que déjà là, ils ne s'autorisaient même pas à venir dans les réunions parce qu'ils se disaient, c'est pas pour moi, je ne sais rien faire.
On faisait des cafés à l'extérieur de l'école pour séduire les mamans à venir assister à nos réunions, à intégrer l'association des parents d'élèves. Ça, c'était l'élément déclencheur, on va dire. Il y a des mamans qui disent on ne savait pas que ça existait, l'association des parents, et après, on avait le droit d'y être. Là, on a commencé nos projets. On était écoutés, entendus par le directeur, par les profs, et on sentait qu'on était légitimes et qu'on avait notre mot à dire.
Je dis ça pour les sachants, pour les gens qui sont militants et engagés. Comment tout ce qu'on peut apprendre, on peut le transformer et qu'il soit adapté à chaque fois aux structures dans lesquelles on travaille ou aux structures dans lesquelles on milite. Là, par exemple, c'est OK, il y a une association de parents d'élèves qui a autour de la table qui dirige tout ça, où il est le pouvoir. Eh bien, il y a un président, un vice-président, une secrétaire. Eh bien, on va tout changer. On va faire en sorte que ce soit les parents qui sont en majorité dans cette école qui prennent le pouvoir. Ça doit être des personnes sans papier qui doivent prendre les rênes de ces associations, parce qu'il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, elles se sentent légitimes d'avoir du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Alia, qui était la première présidente sans papier à être présidente de l'association. Pas au début, c'était à travailler avec le corps, parce qu'elle ne se sentait pas légitime. Pour moi, c'est important qu'à un moment donné, que les personnes qui sont dans l'association soient représentatives des publics qui sont dans les écoles, parce que ça permet aux gens de s'identifier à ces personnes. On oublie que toutes ces personnes-là, elles ont des expertises. Elles ont des savoirs. Ce n'est pas parce qu'elles viennent des pays qu'elles perdent tout dans la migration. Ce n'est pas vrai. C'est comme si, en fait, la migration, elle annulait tout ce qu'on était avant. Et comme si on ne devenait rien quand on arrive ici.
Du coup, Alia, moi, je ne résiste pas à ce que tu nous racontes. Ce que ça a été pour toi de devenir présidente de l'association des parents d'élèves.
En fait, c'était un immense honneur déjà par rapport à la confiance qu'on m'a faite. Et après, comme disait Assia, je ne me sentais pas vraiment légitime. Je me disais, je n'ai pas de papier. Là, je dois déjà, je pense à ça, comment avoir des papiers et être présidente. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ce n'est pas logique? Mais après, je prenais ce qu'on m'a offert du coup. Et après, c'était une belle expérience et j'ai joué le jeu. J'ai été présidente pendant un an. Être là pour les gens, partager, aider. J'ai commencé à avoir confiance en moi, petit à petit. Moi, avant, les associations, je ne connaissais rien. C'est un apprentissage continuel et après, c'est des découvertes. Et ça forge notre personnalité, ça dit que tout est possible. Yes, we can. Et après, là aussi, comme a dit Assia, c'est pour dire aux autres parents et aux autres mamans que c'est possible. Si c'est moi, je l'ai fait, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Et c'est ce qui a été. Après, il y avait Samira qui m'a succédé. Et aussi, c'était une belle expérience pour elle, je pense. Et là aussi, elle a eu ses papiers et là, elle travaille. Et c'est l'aboutissement, en fait.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que sont devenues ces personnes-là? Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'ils ont été dans cette association? Et là, si on prend l'exemple de Samira, aujourd'hui, elle est assistante de vie scolaire. Et donc, du coup, je me rappelle très bien l'année dernière quand elle m'a appelée, très émue en me disant « J'ai eu le concours, c'est-à-dire que je vais travailler et surtout, je fais mon stage à Chabanon. » Et ça, je trouvais ça génial parce qu'elle était... C'est plus que... Quoi, c'est pas que le fait d'AVS, c'est que de faire son stage, son premier stage à l'école Chabanon, où il y avait ses enfants, où elle a tout appris en fait aussi, et où elle revoit les enfants. Et ben, pour elle, elle me disait que c'était plus qu'un honneur. Elle était vraiment très émue que les enfants viennent chez la voir. Elle fait « Mais qu'est-ce que tu fais là, tata? Tu travailles ici ?» Et comment aussi le fait que des personnes comme ça reviennent dans les écoles, ce que ça fait dans la tête des gamins de dire que c'est possible que leur maman puisse travailler en France dans des postes comme ça. Pour eux, c'est ABS, c'est celui qui travaille avec l'Instit. Ce n'est pas des postes négligeables, quoi. On a créé les Minots de Noailles la première semaine du confinement parce qu'on s'est rendu compte que toutes les familles qui ne pouvaient plus sortir pendant cette semaine-là mouraient de faim, en fait.
Des familles qui ne pouvaient pas sortir parce qu'elles n'avaient pas de papier.
Parce qu'elles n'avaient pas de papier, pardon. Je me rappelle que la première semaine, on ne se voyait plus. Tout le monde était dans une psychose, à part les personnes militantes. C'est les seules qui étaient un peu dans la rue, qui sortaient. Donc moi, j'avais eu quelqu'un du CHO3 pour voir comment on s'organisait. Mais on était un petit peu, on ne se rappelle pas de cette époque, mais on ne pouvait pas sortir quand même, quoi. Donc, et moi, je téléphonais juste aux personnes qui étaient dans ma rue ou un peu au Vieux-Port. Et là, j'avais des personnes qui n'avaient pas fait leurs courses. Donc, je suis allée faire les courses à 2 ou 3 familles. Je suis allée au marché parce qu'il y avait une vieille dame qui voulait du poisson, ça, je me rappelle. Il y avait encore les poissonniers au Vieux-Port, quoi. Donc, j'ai pris des sardines pour cette maman. Et en remontant, j'ai vu que le marché de Noailles, à travers, il y avait du monde. Alors, ça m'a scotché parce qu'on était censé être confinés et tout. J'ai rien compris. C'était... Et puis, j'ai eu le réflexe d'aller envoyer un message au directeur, voir comment allaient les enfants. Et là, les profs m'ont dit, mais il y a plein d'enfants qu'on ne voit plus. Il y a rupture d'égalité scolaire, là, parce qu'il n'y a rien. Donc, moi, je leur ai demandé de me donner juste la liste des enfants qu'ils n'ont plus vus. Et c'est là que ça a commencé, les Minots de Noailles. On s'est dit, en fait, il y a deux... chose qu'il faut qu'on fasse. Un, c'est vraiment que les familles mangent, parce que c'est vraiment grave. Et deux, que les enfants puissent avoir une continuité pédagogique. Moi, j'ai fait appel à des dons pour avoir une photocopieuse, pour faire des photocopies aux enfants, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, parce qu'ils n'ont pas d'Internet.
Et c'est là que, de toute façon, dans toute Marseille, il y avait cet élan de solidarité. Ce n'est pas que nous. Et là, on a pensé à faire les colis alimentaires, les colis d'hygiène, les colis de légumes qu'on a fait ici à la Darla Mifa.
Et après, on s'est connecté avec le collectif du 5 novembre et on a créé Allocate Solidaire. Et via ce réseau, en fait, en vrai, ça a permis à plein de gens de nous connaître comme ça. Aujourd'hui, les Minots de Noailles, c'est qui? Ce sont les familles dont les enfants sont à l'école Chabanon et au Berger, qui est l'école du secteur de Noailles, d'une partie de Noailles, et les familles qui habitent à Noailles, mais dont les enfants ne sont pas dans les écoles du secteur.
Dans le collectif, il y a une 60aine de familles, ça veut dire parents et enfants. Après, il y a des mamans qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'elles travaillent ou elles sont occupées avec leurs enfants.
Mais voilà, là aujourd'hui, on en est à une vingtaine de mamans qui sont vraiment investies avec nous, qui font des projets avec nous. Et quand on fait des projets autour de la culture, plein de sorties qu'on fait, ben là, les mamans, elles sont vraiment investies, quoi. On les voit à cette occasion-là. On a hésité beaucoup à monter une association, en fait, parce qu'on était très bien au collectif. Indépendamment des fonctions qu'on avait dans ce collectif, on était tous plus ou moins égales. Quoi, il y avait quelque chose d'horizontal. Monter une association, loi 1901, normale, ça veut dire un président, un secrétaire, un vice-président, et avec, à travers ça, forcément, un peu de hiérarchie. Et moi, ayant une expérience associative, à chaque fois, j'étais très déçue de cette hiérarchie un peu en forme pyramidale qui se mettait en place indépendamment des gens.
Et au bout d'un moment, c'est les mamans qui ont demandé la création de l'association.
Ça s'est concrétisé à la demande des mamans, mais aussi de Alia, parce qu'on avait des propositions autour des cantines et il fallait, pour avoir une facture, un numéro de SIRET. Au moins, ça nous permettrait de faire en sorte qu'il y ait un peu d'économique dans cette association et de redistribuer aux familles autrement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les familles ne pourront pas avoir de salaire, mais au moins comme on galère à avoir des colis alimentaires, comme on galère à avoir de l'argent pour les sorties, comme on veut vraiment être autonome et ne pas dépendre des subsides publics qui ne rentreraient pas dans notre philosophie de vie aussi par rapport au collectif. Voilà, c'est ça qui nous a freinés et qui, en même temps, a fait qu'on a accepté ça.
Adapté pourquoi ?
Pourquoi ? Et attends, l'enseignante est rigolée, en plus elle est algérienne.
Ouais.
Et elle me disait, madame.
Pourquoi elle ne respecte pas ?
Je ne sais pas, ça leur a fait rire. Non. Après elle me disait, tu sais, c'est adapté. Mais du coup, oui, parce que moi aussi je mange. Elle dit, ok.
Mais ça rigole avant.
Mais ça rigole, ça grave rigole.
Tu vois, quelqu'un qui est un peu timide, elle n'a jamais osé dire.
C'est ça. Alors il me dit, t'es la première à demander. J'ai dit sinon je sors.
Parce que les gens, ils ont peur de dire le mot maintenant.
C'est ça. Après oui, ça leur a surpris. Ils me disaient, mais on ne dit jamais. Après, c'est un Algérien qui faisait la traduction à d'autres. Alors il m'a dit, nous,
c'est
on
devenu
dit
tabou.
Ça, on dit adapté.
Ils ont changé même le mot.
Ce qui était important, c'est au moins d'être d'accord sur l'objectif de l'association. J'avais fait un premier jet, on l'avait lu ensemble. On a refaçonné et on l'a mis à discussion le jour de l'AG constitutif de l'association quand même. On a traduit, on a discuté, on a rajouté ou pas des choses que les mamans disaient. Et pour moi, c'était important le jour de l'AG constitutive d'avoir ce retour des mamans sur l'objet de l'association. On est parti sur une collégiale, c'est-à-dire on est tous au même niveau. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a rien. Il y a juste une obligation d'avoir des représentants. Donc on a deux représentantes et on a fait en sorte que ces deux représentantes soient représentatives de l'association et des parents. Et donc on a Alia, qui est d'origine algérienne, qui était à l'école Chabanan, et on a Tatiana, qui est d'origine albanaise. Voilà, qui en demande de papier, mais qui justement va faire ce lien de comment on accompagne les parents pour qu'ils soient autonomes dans les associations. Les titres sont très révélateurs de l'enfermement qu'on met dans des statuts. Moi j'appelle ça des architectures invisibles. Donc le fait qu'elle soit juste représentante, c'est pas présidente. Et c'est complètement différent. Et donc aujourd'hui, on a cette collégiale. On s'est mis un an à la mettre en place. Donc ça a demandé plusieurs fois des réunions. Et à chaque fois qu'on se voyait pour un café, on utilisait cet espace-là pour redire ce que c'était qu'une association. On est vraiment dans une optique à vouloir que les choses se fassent de façon le plus intègre possible et en toute transparence. Et c'est pas facile. Voilà, parce que même comme ça, c'est pas vrai encore qu'on est dans une horizontalité à 100%.
S'il y a quelque chose qu'on va décider de faire, on a dit, voilà, telle date, il y aura ça. Qui est d'accord? Qui est disponible? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous voulez participer? Comment on va faire ça? Sur WhatsApp, il y a tout le monde qui répond. Ça veut dire là, on peut proposer et après, la décision finale, elle revient à tout le monde.
Si c'est possible, c'est parce qu'il y a un gros travail de traduction. Voilà, c'est parce que dans tous les WhatsApp, je traduis, même si des fois, ce n'est pas la bonne traduction avec Google Traduction, mais on essaye à chaque fois, en albanais et en arabe, je traduis presque tous les messages les plus importants. Du coup, on a des réponses parce que les gens, ils lisent leur langue, quoi.
C'est quoi l'objet?
Donc, c'est autour du pouvoir d'agir des parents. Ce qu'on a appris à l'association des parents d'élèves et pendant un an d'expérience au Mignon de Noailles, être parent, ça s'apprend. D'avoir les codes culturels du pays dans lequel on est, ça s'apprend aussi, surtout dans un contexte de migration. Comment on peut être aussi un lieu de répit, un espace d'échange et de savoir entre nous, et en termes de discussion autour des enfants, mais aussi en termes de discussion autour de nous, quoi, de notre bien-être, de ce qu'on a envie de faire dans la vie, de ce qu'on a envie de devenir ou d'être en tant que femme et qu'on n'a pas encore endossé ce rôle, parce qu'il y a plein de mamans en fait, qui se sont révélées pendant toute cette deuxième phase de confinement et dans le cadre de ce collectif. Et aussi, c'est aussi tout ce volet accès à la culture, mais qu'on a redéfini, nous, comme plutôt accès à la pratique culturelle et au lieu culturel, parce qu'accès à la culture, ça ne veut rien dire non plus. On a tous accès à notre propre culture. Mais par contre, on a remarqué pendant des années où on était à l'école Chabanon que les enfants n'ont pas accès aux pratiques culturelles du tout. Voilà, surtout en contexte de situation d'irrégularité. Ils ne rentrent pas dans les moules en fait, prédéfinis de toutes les institutions. Et donc, du coup, les enfants ont du mal à faire du sport, de la musique, etc. Donc là, aujourd'hui, les mamans, elles veulent d'ailleurs. Les enfants font de la boxe ici, tous les mardis soirs. On a fait beaucoup de projets autour du jardinage, du land art, avec des projets, beaucoup de collaborations avec des associations, des artistes, etc. À court terme, les Mignon de Noailles, c'est tout ça. Mais à long terme, c'est vraiment de créer un restaurant solidaire à Noailles et de permettre de faire même un tiers-lieu populaire pour que les mamans, les femmes puissent être autonomes d'un point de vue financier, comme un tremplin, comme Alia. Au début, on commence sans papier, mais on ne reste pas éternellement sans papier, mais qu'on est déjà prêt à travailler et s'insérer professionnellement. Et avec l'expertise des mamans, on a un atelier couture qui se met en place et qui a du mal parce qu'il y a cette histoire toujours de local. Mais qu'on a vraiment plein de projets autour de la couture, autour de la cuisine, bien-être. Autour de l'artistique, le bien-être. Et en fait, les mamans, elles ont plein d'idées là. Mais on n'a pas d'espace, on n'a pas de salariés pour coordonner tout ça.
Ça va être un moyen d'émancipation, d'épanouissement pour les enfants et pour les mamans. Chacune à travers son projet, parce que chacune de nous a un savoir-faire et elle peut le transmettre aussi. C'est vrai, la plupart, elles n'ont pas de papier, mais elles ont quelque chose. Du coup, chacune d'elles, elle peut créer son projet à travers les Mignon de Noailles. On essaye de les faire émanciper. Et même nous, on est en train de s'émanciper et de s'épanouir.
Quand on a commencé, avant de commencer vraiment à monter l'association, on s'est dit, on va inviter toutes les mamans et on va leur demander, chacune d'entre elles, quelle est son expertise. Et c'était étonnant parce qu'il y a même des mamans qui font « Oh, mais je ne savais pas que je savais faire ça. » Mais en fait, moi, je suis ça, en fait. Moi, en fait, j'étais couturière dans mon pays. Et en fait, en venant là, c'est comme si je n'étais plus couturière. Ouais. Tu vois, j'avais une entreprise, j'avais un magasin. Et en fait, ici, dans la migration, on perd tout ce qu'on avait. Et en fait, on a fait une réunion en leur demandant d'abord qu'est-ce qu'elles faisaient dans leur pays. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font maintenant. Et aussi, qu'est-ce qu'elles rêveraient de faire demain dans leur travail. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que y a des femmes qui veulent vraiment faire de la coiffure parce que c'est vraiment leur passion de prendre soin des autres. Vraiment, il y en a que on est des bébés, en fait, quoi. On se lâcherait, on serait coiffées tout le temps, maquillées, avec des beaux ongles, etc. Moi, je n'ai pas l'habitude. Et puis, il y a des femmes qui sont passionnées de cuisine et qu'il y a des femmes qui sont passionnées de couture. Ce n'est pas mon trip à moi. Mais je me suis dit, justement... On n'a pas tous la même façon de voir le monde. Et justement, respecter les femmes, c'est de savoir quelle passion elles ont. Au lieu de dénigrer, valoriser ce qu'elles font, mais de façon positive, pas comme on fait des fois dans les quartiers populaires. « Oh, mais tu fais la couture, tu fais de la cuisine. » Ça, c'est les rôles des mamans. Ça me fait toujours penser. Les chefs, avec la toque, c'est toujours des hommes. Et c'est valorisé parce qu'ils ont une expertise. Moi, je me suis dit, nous aussi, on va faire comme ça. On va valoriser ce qu'on est vraiment toutes. Moi, je suis médiatrice culturelle, je suis coordinatrice. Je vais valoriser ce que je fais. Et les mamans aussi, elles ont toujours, aujourd'hui, un fil conducteur d'être ce qu'elles ont envie d'être. Ce n'était pas du tout le discours qu'on avait au début. Mama Fanny.
de vie, soubassement de nos familles. Première levée, dernière couchée, pourtant tu gardes ta joie de vivre. Ton enfant pleure, tu lui sèches les larmes. Ton mari rentre, t'es aux petits soins. La belle famille arrive, tu redoubles d'efforts. Une vraie reine, oh toi la femme, toi ma reine. Femme de Guinée, lève la tête, marche tout droit dans le couloir, vers la lumière de ta liberté. Yeah. Oh, la femme, femme de mon pays, lève la tête, marche bien droit vers la liberté de ton respect retrouvé. Marche, marche droit, marche donc vers ta liberté. Ne reste pas dans ce silence, il va te tuer à petit feu. Marche, marche bien droit pour la fierté de tes enfants. Pas humilié par celui qui ne te mérite pas. Oh la femme, femme, lève-toi, lève-toi. Oh lève-toi, femme, marche droit vers la lumière de ta liberté retrouvée.
Ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment un restaurant ou une cantine solidaire à Noailles pour que les femmes, elles soient à la manœuvre aussi. L'un des points de rencontre autour de cette cantine solidaire, c'est que moi, je travaillais dans un restaurant végétarien et vegan maintenant. Et c'est comme ça que vraiment on a commencé. J'avais proposé à la personne que je connaissais de recruter Alia dans cette cuisine. Alia, tu faisais des ménages à l'époque, étant passionnée de cuisine. Aujourd'hui, Alia, elle est experte en végétarien, en vegan, en cuisine méditerranéenne. C'est très rare aujourd'hui. C'est ça, c'est comment, à un moment donné, on est aussi une force de tremplin. Pour moi, c'est comme ça que je vois la cantine solidaire.
Je ne me sentais même pas capable de faire ça, tu te rappelles. Je cuisine chez moi, mais cuisiner dans un restaurant pour d'autres gens, et je croyais que j'étais incapable. Il m'a dit « teste ». Et j'ai testé et j'ai trouvé du plaisir. Je me suis dit « ah oui, je pourrais faire ça ». Et je me suis découverte une nouvelle passion.
Une cantine solidaire, c'est ça, c'est comment permettre à des femmes de reprendre toutes leurs connaissances qu'elles ont connues depuis qu'elles sont petites et qu'elles ont appris en famille avec leur mère, pour que justement elles se disent « ah mais je suis aussi une femme qui peut travailler et qui peut gagner de l'argent ». Parce que c'était ça, toi t'es arrivée et maintenant c'est avec ce travail tu gagnes de l'argent et tu es passionnée par ce que tu fais.
Toutes les mamans, elles sont prêtes à vivre cette expérience. La création de l'association, c'est par rapport à ça aussi. Parce qu'elles veulent avancer, elles veulent s'épanouir, elles veulent aller plus loin que possible. C'est l'objectif aussi. Si vous posez la question à n'importe quelle maman du collectif, elle va dire le collectif c'est une famille. Et de là, on dit entre nous, on est une famille et on est des sœurs. La famille c'est par rapport aux parents, aux enfants. Mais la sororité c'est par rapport à nous, entre nous en tant que femmes, en tant que maman. Et du coup c'est un lien très très fort qui s'est créé à fur et à mesure. On ne le trouve pas dans toutes les associations, ça c'est sûr. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Inch'Allah.
rejoindre Alia. Moi, je pense que c'est ça. La sororité, c'est vraiment une solidarité entre femmes, de l'entraide entre femmes, et aussi des échanges d'expertise et de savoir. Nous, on a vraiment fonctionné sur ça, quoi, sur comment on peut s'entraider, comment on peut donner aux autres femmes des trucs qu'on peut échanger. Mais vraiment, pour moi, c'est de la fraternité, de la solidarité, de l'entraide, du partage, du respect entre nous, et aussi comment se valoriser entre nous.
Ça va plaire à tout le monde. Si on fait une cantine et on a des sous pour les utiliser après, ça serait bien.
Après aussi, pour le partage, ouais. On est en train de
voilà, c'est ça.
Côté, parler.
Voilà, ça améliore le quotidien. On se réunit, on travaille ensemble.
Et c'est tout le temps couscous, le repas que vous faites?
En fait, on a déjà fait des tagines, on a fait des soupes, ça change en fonction. Après le ramadan, on a fait un menu spécial ramadan, c'était...
Et c'est les gens qui demandent ou...
C'était les gens qui venaient, des travailleurs.
Non, pas pour le ramadan. En général, ça aussi. D'accord.
Cantine, c'est pas que nous, ça veut dire ceux qui sont avec nous, ils peuvent venir manger, ils sont les bienvenus, mais après c'est aussi pour vendre. Les gens qu'on connaît pas, ça passe par réseau, parce que Assia a fait l'annonce sur la page Facebook. Les millions de Noailles.
Donc, c'est les gens qui demandent un plat spécial.
C'est ça. Ils viennent demander. Il y a des gens même qui ont réservé pour aujourd'hui. Oui. Via le Facebook, via la page des millions de Noailles. Là, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. En fait, d'habitude, c'est ils viennent, ils prennent. Là, il y aura une autre organisation parce qu'il y a des gens qui vont manger sur place.
D'accord.
Ça veut dire là, c'est une nouvelle organisation. On va voir comment ça va se passer. Parce qu'on ne l'a pas fait avant, c'est la première fois qu'on va le faire.
Si ça marche.
Parce qu'il y avait le Covid, ce n'était pas possible, mais là, on verra.
Et vous avez distribué combien de repas à chaque fois?
Chaque fois, une centaine.
Ah ouais.
Pendant les confinements, ça marchait très, très, très bien parce que tout le monde était confiné.
Oui, les restaurants ont été fermés aussi.
C'est ça. Et après, là, on va tester sur place comment ça va se passer. Et on fera encore. On va reprendre les cantines. Ça veut dire là, il y aura d'autres mamans de... Ce ne sera pas moi, je pense, la prochaine fois. On va voir, on va proposer, on va voir qui est intéressé pour faire une cantine. Par exemple, Rim et Nassera, Nassera, si elle veut, avec Fahima ou Sarah, ou celles qui veulent. Et comme ça, pour garder ce rythme. Parce que puisque là, on est en association, là, il faut vraiment qu'on sera vraiment là et on continue. Ça veut dire, c'est pas bien de s'essouffler. Ça veut dire, on était collectif, on était bien, et on est essoufflé. En fait, on veut garder le rythme et on veut bien que ça continue.
L'idée, c'est d'en faire deux par mois, hein, c'est ça?
Deux par mois. Et après aussi, moi, j'aimerais bien inclure un brunch au milieu. C'est bien, le brunch.
C'est bien. Ouais.
On verra. Là, je serai plus disponible. Mais après, on va donner le truc à d'autres mamans aussi qui veulent...
Il faut que tu nous formes, alors.
Non.
Non, mais...
C'est pas la peine de se former, là. Tu viens et... comme tu veux, tu te sens comme tu es à la maison.
Tu nous montres comment marche le matériel.
Lors du deuxième confinement, c'est l'idée de la cantine solidaire qui a émergé de tout ça pour continuer parce qu'on n'avait plus d'aide extérieure. Là, il fallait qu'on compte que sur nous et là, on a pensé à l'autogestion.
Pendant le deuxième confinement, il y avait des denrées alimentaires qu'on pouvait récupérer aux mines. Ces denrées alimentaires étaient récupérées à la Darmilifa par les maraudes. Et les maraudes, en fait, faisaient de la cuisine pour les gens qui sont à la rue et qui étaient un petit peu en difficulté. Il y en a eu beaucoup. Et nous, du coup, on a eu l'idée de faire aussi des cuisines pour récupérer de l'argent pour les familles qui n'avaient pas pu retravailler au deuxième confinement. Parce que autant pour le premier confinement, il y a eu une solidarité, les gens ne travaillaient pas, on avait beaucoup de bénévoles, on a créé Allo Quartier Solidaire, on était vraiment là. L'école Jeanne du Cousinien qui a bien voulu nous donner les clés pour stocker tous nos denrées alimentaires. Il y avait beaucoup de générosité, on avait le temps parce que les gens ne travaillaient pas. On faisait des récupérations autour des monoprix, avec des voitures, des copains, des copines, etc., avec des gens qui venaient un petit peu de l'extérieur pour nous fournir des fruits et légumes. On avait même fait un contrat avec un copain du collectif qui partait très loin pour acheter des super bons légumes, parce que les gens, ils étaient à perte, en fait, hein, les agriculteurs autour. Tout ça a fait en sorte qu'on a une vraie solidarité pendant le premier confinement. Donc, tout le monde mangeait, on avait des colis, des légumes, etc. Arrivé au deuxième confinement, on n'avait plus aucune solidarité, ni des institutions, ni des assos, voilà. Face à ça, ben, on s'est rendu compte, dans les Minots de Noailles, parce que c'est nous qui avons lancé la démarche au niveau de Noailles, on s'est rendu compte qu'il y a encore un noyau de famille, une trentaine, une quarantaine, qui était vraiment encore en vrai et burn-out et précarité, parce que leur mari, soit ils ne pouvaient plus encore travailler parce que les restaurants étaient fermés, on oubliait au deuxième confinement. Et là, on s'est dit que ce n'était pas possible, et on a re-engrangé une nouvelle machine, mais complètement différente de la première, parce qu'on était tout seul, pour le coup. Et en fait, on a envoyé un SOS pour ces familles-là. Donc là, on a mis en place des collaborations avec les McDo pour les fournitures scolaires, avec des collectifs du 6e. On a récupéré tout ce qui est colis pour les enfants. Et on a trouvé cette cantine pour avoir de l'argent pour faire les premiers colis alimentaires. Voilà, et c'est comme ça que c'est né cette cantine solidaire, en solidarité avec les familles du collectif, et pas en solidarité forcément avec les gens qui viennent manger.
C'est ça, parce que... avec les personnes qui cuisinaient,
voilà.
ou encore d'autres.
Et bah, les personnes qui cuisinaient, c'était les familles, parce que nous on s'est dit, bah, comment on va faire, bah, c'est les familles qui vont venir. Et du coup, est remontée l'idée de ce mépris qu'elles ont vécu, et de la dignité, comment on peut la retrouver. On a fait toute une discussion autour de ça. En fait, c'est pas possible de venir quémander un sac où il n'y a rien. Et je leur ai dit, voilà, nous on connaît les cantines, ça va être autrement, mais on a une cantine, on va demander et on va faire une cantine solidaire. C'est vraiment un projet des mamans, pour les mamans, par les mamans. Pour moi, c'est une première victoire, c'est d'avoir permis aux mamans de venir et de se dire, ah ok, je peux moi-même acheter mon colis alimentaire. Avec WhatsApp, on s'est dit, de quoi vous avez besoin? Et en fait, avec cette cantine, on a acheté tout ce dont ils avaient besoin. Des vrais colis, en fait, on a fait comme si c'était pour nous, pour notre famille. C'est-à-dire, pas de la merde. Donc, on a acheté de l'huile, de trucs, même du Nutella, tout ce qu'ils nous avaient demandé. Et c'était un énorme travail pour moi et Alia, parce qu'en fait, on voulait vraiment répondre à leurs besoins. Mais en fait, ce n'est pas possible de répondre aux besoins de 60 familles. C'est là où on s'est dit, on ne peut plus faire comme ça. Et après, on a pu se négocier des tickets-services. Et du coup, grâce à ces tickets-services, on a pu faire en sorte que l'argent de la cantine solidaire puisse être dépensé pour de la culture. Et là, c'était la vie pour les parents et les familles. Parce qu'on n'a jamais fait autant de sorties.
Ah ouais.
On n'a jamais fait autant de projets artistiques. Et vraiment, on n'avait rien à envier aux autres, quoi. Parce que du coup, on a fait du cheval, on a fait des partenariats avec Foresta, on a fait du land art, on a invité des vrais professionnels artistiques qu'on pouvait payer. Ça a permis aux mamans de dire, c'est nous qui avons payé des activités culturelle pour nos enfants. Quand on a fait la réunion la dernière fois, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le projet que vous voulez faire? Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, les familles, ce qu'elles veulent aujourd'hui, on veut partir 2 jours dans un gîte. Alors moi, personnellement, j'aurais peut-être pas dit ça, parce que me retrouver avec tous les gamins dans un gîte, je sais pas si je vous suis. Mais c'est une aventure qu'on fait déjà entre nous. Quand on sort, on part. Une fois, on est parti avec toutes les poussettes à Foresta. Il n'y a que nous pour faire ça. Descendre les marches, les remonter avec des poussettes. Samira nous a dit que la journée à Gréas qu'on avait fait, à un moment donné, ça a été une journée magnifique parce que les parents ont pris le car pour sortir de Marseille. Et pour certains parents, c'était la première fois. Parce qu'ils ont beaucoup de peur de sortir avec les papiers et tout. Donc du coup, on travaille à Noailles, on travaille dans les quartiers nord, mais on ne sort pas trop. Et là, je me rappelle qu'il y a un papa qui a été interviewé où on part à Gréas, qu'on voit plein de verres comme ça sur la route. On avait loué un petit autocar, que pour nous. Les papas et les mamans, là, il y avait beaucoup de papas, ils disaient, mais rien que de sortir de Marseille, de voir du verre comme ça, et d'arriver dans un lieu, dans un village qu'on ne connaît pas du tout, ben déjà, c'est la respiration. Dans le verre, comme ça, toute la journée à Gréas. Un paradis. Pour les familles, c'est un déclic. C'est vraiment comment, à un moment donné, ça nous permet de voir même notre vie de tous les jours différemment. Comment ça nous donne des idées. Donc du coup, c'est ça, en fait, les Minots de Noailles, c'est ça. C'est comment, entre nous, on s'entraîne, on se donne des idées.
Thank you.
on n'a pas de local. Mais il se trouve que tout ce qu'on a fait cette année auprès des Millions de Noailles et la création de ce collectif et de la genèse, etc., là, avec les familles, ça s'est fait grâce au local qu'on a eu à Dunes, qui nous a mis à disposition pendant un an quand même. Parce que je ne crois pas que si on n'avait pas de local, on aurait pu faire tout ça, en toute sincérité. Parce que ce local, ça a été vraiment un lieu de répit pour les familles, un lieu de répit qui a permis aux familles de se faire confiance et d'avoir confiance, et de venir discuter, échanger avec une temporalité qui n'était pas figée. C'est-à-dire, viens, on va au local pendant 2 heures. Non, on vient, on mange, on discute. Le café, c'est un prétexte. Et c'est là que les discussions se font, qu'on a pu tirer les fils des projets, en fait. Et moi, je crois beaucoup au moment informel. Voilà, je ne crois pas du tout au moment, bon, on fait un café par an, on va discuter de la difficulté que vous avez avec vos enfants. Voilà, c'est toujours comme ça. Et on invite un psychologue, il va savoir mieux que les mamans comment élever nos enfants. Et moi, ce que j'ai appris par rapport à toutes ces années où j'ai cautionné tout ça, c'est que les expériences, c'est les mamans entre elles qu'elles se les donnent. Mais comme tout, d'ailleurs. Oui, et donc, du coup, ce local nous a permis d'accueillir toutes ces familles, mais à n'importe quel moment. Et ça, c'était un luxe. Voilà, et on ne remerciera jamais, franchement, l'association Dunes qui nous a prêté, comme un peu Darla Mifa le fait, les clés. Je pense que ça a induit des projets différents. Les familles venaient, on avait des rendez-vous. Elles se sont autorisées à faire des ateliers de couture. Elles se sont autorisées aussi à faire des cours de linguistique. Elles se sont identifiées à celui-là. C'était vraiment un lieu, un rendez-vous. Donc oui, le local, pour moi, c'est hyper important. Et oui, c'est très difficile d'en avoir à Noailles parce qu'il n'y a pas beaucoup de local. Et quand il y en a, ils sont fermés. On ne sait pas pourquoi. Donc pendant longtemps, on a quand même fonctionné. Ça ne nous a pas empêché d'être créés. Et on a fonctionné, on appelait ça les Minots de Noailles nomades. On était nomades. À chaque fois, avec les réseaux, on arrivait à avoir un lieu. Donc à la tribu Minado, à la place Thiers, donc pas très loin de Noailles, à la Darla Mifa, à Dunes.
Un parc.
Voilà, un parc. Pendant les confinements, voilà, on allait au parc Borély, au Alonchamp. Mais c'est vrai que ce qui a changé radicalement le fait d'avoir le lieu de Dunes, c'est qu'on a créé une dynamique. Voilà, qu'on n'a pas pu créer avant. Voilà, cette dynamique de femmes avec des projets à l'intérieur, avec des enfants à côté de nous, on les garde, les femmes, elles peuvent se lâcher prise. Voilà, moi, je pense que le local, c'est vraiment primordial. Le fait qu'à Noailles, par exemple, on puisse plus travailler ensemble avec les associations du quartier, en mettant en avant vraiment le travail de mobilisation des habitants par les habitants.
Expulser nos centres-villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour que vraiment le peuple voie. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères, tels qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, donc pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Tirer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de gêne sous le préau écrasé. Mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue comme tous les des immeubles vides, on ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient. Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, goût et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsé de nos vies, comme expulsé de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Sur le terrain, contre leur politique d'apartheid, car la rue nous appartient, et parce que nos vies nous appartiennent.
La dignité, vous connaissez, c'est nous.
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Épisode 5, Les Minots de Noailles, un entretien avec Assia et Alia, et grand merci aux participantes des Cantines Solidaires. Prise de son, Fatima Sissani. Montage, Fatima Sissani et Rinka. Mixage, Rinka.